Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 3 novembre 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Tout d'abord les titres. Le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré signent en Afrique du Sud un accord de cessation des hostilités. Entretien hier à Bamako entre le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Au Sénégal, le principal opposant, Ousmane Sonko, a appelé au calme mercredi à la veille d'une convocation judiciaire. Soutien absolu de la Ligue arabe aux Palestiniens malgré les normalisations des relations entre Israël et certains États membres. Ici aux États-Unis, mise en garde du président Biden contre un risque de chaos en Amérique à 6 jours des élections de mi-mandat. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Le gouvernement éthiopien et les autorités rebelles du Tigré ont conclu un accord de cessation des hostilités dans cette région du nord de l'Éthiopie en conflit depuis 2 ans. Annonce faite hier par l'Union africaine Abdourahmane Dia.
Les deux parties au conflit éthiopien ont formellement accepté de cesser les hostilités, a déclaré lors d'une conférence de presse Olusegun Obasanjo, haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique. Cet accord marque le début d'une nouvelle ère pour l'Éthiopie, a-t-il ajouté. Dans une déclaration commune lue à la fin de la conférence de presse, les deux parties ont déclaré qu'après des jours de négociations intenses, un accord de paix a été conclu. Les rebelles ont également salué l'accord. Afin de répondre à la souffrance de notre peuple, nous avons fait des concessions car nous devons établir la confiance, a déclaré le chef de la délégation rebelle Getachew Reda. Affirmant sa volonté de mettre en œuvre l'accord et dans les meilleurs délais, il a souligné la volonté des deux parties de laisser le passé derrière elles pour tracer un nouveau chemin vers la paix. Des délégations du gouvernement fédéral d'Addis Abeba et des rebelles sont réunies sous l'égide de l'Union africaine depuis le 25 octobre à Pretoria. Cette rencontre est le premier dialogue rendu public entre les deux camps.
Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué une première étape vraiment bienvenue et le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a souligné que cela représente une importante étape pour la paix. Le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a eu hier à Bamako des entretiens avec son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. C'est son premier voyage à l'étranger depuis sa prise de pouvoir le 30 septembre, Mohamed Houmfa.
Cette visite d'amitié et de travail vise à renforcer l'axe Ouagadougou-Bamako, a souligné la présidence du Burkina dans un communiqué. Les questions sécuritaires y seront notamment abordées. Le chef de l'État burkinabé entend insister sur le renforcement de la coopération bilatérale et la mutualisation des moyens de combat, ajoute le communiqué. Dimanche, le nouveau Premier ministre du Burkina a laissé entendre que son pays pourrait envisager de renforcer ses liens avec la Russie compte tenu de la nouvelle donne en matière de sécurité. À Bamako et Ouagadougou, Moscou jouit d'un soutien populaire grandissant quand la France, ex-puissance coloniale, est de plus en plus critiquée.
Nous reviendrons sur la visite du capitaine Traoré en seconde partie de cette édition avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. Pour leur part, les États-Unis vont exclure le Burkina Faso de l'AGOA. Cet accord commercial avec des pays africains, la Maison-Blanche, justifie cette décision par l'absence de progrès vers un retour à la démocratie après les deux coups d'État militaires dans ce pays. Le point avec Rosine Mounezero.
J'ai pris cette décision car j'ai déterminé que le gouvernement du Burkina Faso n'a pas mis en place ou fait des progrès continus en vue d'établir le respect de l'état de droit et du pluralisme politique, élément nécessaire dans le cadre de l'AGOA, African Growth Opportunities Act, a justifié le président Joe Biden dans une lettre envoyée au Congrès. Selon ce courrier, l'exclusion du Burkina sera effective au 1er janvier prochain. Dans un communiqué, la ministre américaine au commerce, Catherine Tai, a insisté sur la nécessité pour le Burkina Faso de prendre les décisions nécessaires pour répondre aux conditions de l'accord et au retour de la démocratie. L'AGOA, mise en place en 2000 et dont la liste des bénéficiaires est révisée tous les ans, établit un tarif préférentiel pour les pays qualifiés. Ils facilitent leurs exportations sans droit de douane vers les États-Unis.
Au Sénégal, le principal opposant, Ousmane Sonko, a appelé mercredi ses soutiens à rester calmes à la veille d'une convocation judiciaire à risque en raison d'un contexte politique tendu et d'un précédent dans la même affaire qui avait déclenché plusieurs jours d'émeutes meurtrières, Michel Joseph.
Monsieur Sonko, 48 ans, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, est depuis 2021 sous le coup d'une inculpation pour viol présumé contre une employée d'un salon de beauté où il allait se faire masser. Sa mise en cause avait contribué à déclencher en mars 2021 plusieurs jours d'émeutes, de pillages et de destructions qui avaient fait au moins une dizaine de morts. Je demande à tout le monde solennellement de rester tranquillement chez soi ou alors de vaquer tranquillement à ses occupations, a déclaré Ousmane Sonko dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il proclame son innocence et dénonce un complot ourdi, selon lui, par le président Macky Sall pour décrédibiliser son adversaire politique. Le pouvoir se défend de toute instrumentalisation de l'appareil d'État. Le président Macky Sall, élu en 2012 pour 7 ans et réélu en 2019 pour 5 ans, reste muet sur ses intentions de se représenter pour la présidentielle de 2024.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants arabes ont affirmé hier leur soutien absolu aux Palestiniens. Ce soutien a été exprimé dans la déclaration finale du premier sommet arabe organisé à Alger depuis que plusieurs membres de la Ligue arabe ont brisé un tabou en normalisant leurs relations avec Israël. Eric Manirakidza.
La déclaration d'Alger, publiée à l'issue du sommet de deux jours, a affirmé la centralité de la cause palestinienne et le soutien absolu aux droits des Palestiniens à avoir un État indépendant et souverain avec Jérusalem-Est comme capitale sur les territoires occupés par Israël en 1967. Sans évoquer explicitement le rapprochement opéré par certains de ses membres avec l'État hébreu, la déclaration finale a réitéré l'attachement des pays arabes au plan de paix arabe de 2002, conditionnant toute normalisation avec Israël à un retrait des territoires arabes occupés. Le sommet a également proclamé son soutien aux efforts de l'autorité palestinienne pour devenir membre à part entière de l'ONU et à poursuivre Israël devant la justice internationale pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis contre le peuple palestinien. Le sommet a aussi apporté son appui aux efforts visant à régler la crise en Libye par un règlement interlibyen qui garantit l'unité et la souveraineté du pays.
Ici aux États-Unis, à 6 jours des élections de mi-mandat, le président Joe Biden a mis en garde mercredi contre les candidats prêts à refuser les résultats du vote, assurant que cela ouvre la voie au chaos, Jean-Roger Bion.
Le président américain a pris pour exemple le cas de Paul Pelosi, le mari de la chef démocrate Nancy Pelosi, attaqué à coups de marteau à son domicile vendredi matin. L'agresseur a indiqué qu'il cherchait en réalité la présidente de la Chambre basse. Certains agents électoraux et élus ont aussi dit avoir constaté une hausse des menaces et intimidations. C'est inédit, illégal et anti-américain. Nous ne pouvons plus tenir la démocratie pour acquise, a averti le dirigeant démocrate, le ton grave. Il est revenu sur l'assaut du 6 janvier 2021 contre le siège du Congrès par des partisans de son prédécesseur Donald Trump, convaincu de la victoire de ce dernier à l'élection de 2020, et a déclaré « J'aimerais pouvoir dire que l'assaut contre notre démocratie a pris fin ce jour-là, mais je ne peux pas. » M. Biden a énuméré le nombre de candidats prêts à refuser les résultats du vote aux élections du 8 novembre, le premier scrutin organisé dans l'ensemble du pays depuis cette attaque. Les Américains sont appelés à renouveler l'ensemble des sièges de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Toute une série de postes de gouverneurs et d'élus locaux seront également en jeu. Joe Biden tente tant bien que mal, selon des observateurs, d'axer le débat autour de la protection de la démocratie quand les républicains l'attaquent sur son bilan économique, l'inflation en particulier.
L'armée de l'air sud-coréenne a annoncé aujourd'hui la prolongation des exercices aériens les plus importants jamais organisés entre Séoul et Washington à cause des récentes provocations de la Corée du Nord. C'est ce qu'a déclaré l'armée de l'air dans un communiqué quelques heures après le lancement de 3 missiles par Pyongyang. La Russie a repris mercredi sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, affirmant avoir reçu des garanties écrites de la part de l'Ukraine sur la démilitarisation du couloir maritime utilisé pour leur transport. Tensions et anxiété règnent dans les échanges entre Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, et de nombreux utilisateurs soucieux de comprendre comment il compte donner corps à sa vision de la liberté d'expression sur l'influente plateforme. Mercredi, il a assuré que les comptes ayant été suspendus du réseau social ne seraient pas restaurés avant quelques semaines. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Selon l'indice composite des cours des produits de base de la Banque des États de l'Afrique centrale, les prix des produits agricoles exportés par les pays de la CEMAC ont enregistré une baisse de 3,5% au deuxième trimestre. Les plus fortes baisses ont été observées sur les prix du sucre, du cacao et du café. Mais une augmentation a été enregistrée sur le prix du coton, de l'huile de palme et du riz, indique la Banque régionale. La Côte d'Ivoire a obtenu un prêt de 250 millions d'euros de la France pour financer le projet de métro d'Abidjan qui devrait générer 2000 emplois. Selon le ministre de l'économie, Adama Koulibaly, le métro va desservir des zones entre Aniama jusqu'à Port-Boué. Il s'étendra sur 2 voies de plus de 37 km avec 18 stations, plusieurs ponts, dont un viaduc sur la lagune Ébrier. Une fois opérationnel, le métro d'Abidjan devrait permettre de transporter 540 000 passagers par jour. Le gouvernement togolais organise en collaboration avec l'ONC un atelier sur le e-commerce le 10 et 11 novembre à Lomé. Il s'agit d'outiller les jeunes entrepreneurs aux nouvelles plateformes de commercialisation sur Internet. La date butoir pour les enregistrements des start-up est fixée au 6 novembre avant minuit. Le ministère du Commerce souligne que les candidatures féminines sont vivement encouragées.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les rencontres allées du tour de cadrage de la Coupe de la CAF ont été disputées hier mercredi.
Oui, le Djoliba AC du Mali a fait un match nul 0-0 face aux Marocains de l'AS Far à Rabat au stade du 26 mars de Bamako. Pour le coach du Djoliba, son club n'a pas dit son dernier mot. Tout reste à jouer au match retour.
Le retour, c'est sûr, ça va être difficile, car jouer une équipe marocaine à ce niveau, c'est jamais facile, mais je pense que tout reste ouvert. On a notre chance aussi parce qu'on n'a pas pris de but. Maintenant, il faut se remobiliser, dire aux jeunes que c'est encore possible. On va travailler dans ce sens et essayer d'aller au moins marquer un but, au moins ne pas perdre, quoi, avoir un match nul avec un score. Bon, ben, c'est le football, ça reste toujours ouvert.
Sekou Sek, dit Bako, entraîneur du Djoliba AC du Mali. Fernando Dacruz, coach de l'AS Far du Maroc, a, pour sa part, indiqué que son objectif reste et demeure la qualification.
On a fait que la moitié du travail. On n'a pas le sentiment que ça va être facile au match retour. On s'attend à un match compliqué. On a un grand respect pour Djoliba, mais on va tout faire aussi pour se qualifier parce que c'est notre objectif.
Fernando Dacruz, coach de l'AS Far du Maroc. Des propos recueillis par notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré. Dans les autres rencontres, l'autre club marocain, la Renaissance Sportive de Berkane, a perdu 1-0 en Tunisie face à Monastir grâce à un doublé de Ouattara Moutalabou. Les Togolais de l'ASCO de Kara ont battu à domicile les Tunisiens du CS Sfaxien 2-1. Les Burkinabés du Racing Club du Kadiogo, qui ont reçu les Congolais de Saint-Éloi-Loupopo au stade de l'Amitié de Cotonou, sont tombés 0-1, 2-0 pour le TP Mazembe qui recevait les Sud-Africains du Royal AMFC. Même score en faveur de DC Motoma Pembe devant Flambeau du Centre. 2-0 également pour l'ASEC d'Abidjan dans le derby facticide face au SC Gagnois. La bonne opération est à mettre à l'actif des Nigériens du Plateau United qui se sont imposés à domicile 4-1 face à Al Akhdar. Les matchs retour se jouent la semaine prochaine.
La NBA, hier soir, les Lakers battent la Nouvelle-Orléans 120-117. Philadelphie est battue par Washington 121-111. Milwaukee démolit Détroit 116-91. De nouveau avec vous, Idrissa Sevilla. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Accompagné d'une forte délégation composée de son ministre de la Sécurité, du chef d'état-major des armées et de plusieurs autres hauts gradés, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est longuement entretenu avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, mercredi. Un entretien qui a été dominé par les questions sécuritaires, nous dit notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Après plus de 2 heures d'échange avec le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, le capitaine Ibrahim Traoré a évoqué au micro des journalistes l'objet de sa visite à Bamako.
Le plus important pour nous dans la situation actuelle, c'est les défis sécuritaires. Donc avec ce peuple, on est venu échanger, comment renforcer nos coopérations militaires et pouvoir mieux mener nos opérations et sécuriser nos populations. C'est l'objet principal de la visite.
À l'endroit des peuples du Mali et du Burkina, et ceux des pays membres de la zone Sahel, le président de la transition burkinabé a demandé plus de solidarité.
C'est d'être beaucoup plus solidaire, de se donner la main et de rester unis, unis dans cette lutte.
Le choix du Mali pour sa toute première sortie, seulement 24 heures après la fête de l'armée au Burkina, s'explique par les réalités que partagent les deux pays.
C'est un pays frère, comme je vous l'ai dit, et nous partageons, sans, vous le savez bien, une très large frontière. Ça fait 1200 km qui sont entre nous et on a beaucoup d'échanges de populations. C'est le même peuple, donc c'est un choix normal.
A noter que l'audience qui était prévue pour prendre fin à 17h a finalement pris fin aux environs de 19h. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102 FM, c'est VOA Afrique 24h sur 24.
En Guinée, le procès du massacre du stade du 28 septembre 2009 est suivi de près par les Guinéens. Pour beaucoup, il permettra de mettre fin à l'impunité depuis plusieurs décennies. Dans les cafés de la capitale guinéenne, les télévisions transmettent en direct le procès. C'est la première fois qu'on voit un tel procès et ça va crédibiliser notre justice, a dit un téléspectateur. Que pensent les leaders politiques? John Linden s'est entretenu avec Adia Makale Camara, ancienne ministre des Affaires étrangères de Guinée.
Ce procès est assez édifiant. Il était attendu depuis 13 ans maintenant. La population guinéenne, les citoyens sont en train d'être édifiés sur comment est-ce que nous avons été gouvernés sous l'ère de Dadis Camara. Ça commence, les interrogations se poursuivent. C'est la justice qui aura le dernier mot, mais c'est important que le peuple de Guinée ait été identifié sur comment ce pouvoir est arrivé, comment il s'est déroulé et qu'est-ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Je pense donc que c'est une bonne chose pour les victimes, mais pour tout le peuple de Guinée, parce que la vérité, c'est la seule chose qui nous importe.
Alors, vous parlez des 13 ans d'attente. Parmi ces 13 ans, il y a bien les quelques 10 ans de règne de l'ancien président Alpha Condé. Pourquoi il n'a pas fait juger M. Camara?
Oui, je ne peux pas le dire per se pourquoi il n'a pas fait tenir ce procès. Mais des révélations qu'ils nous ont faites, c'est que beaucoup de hauts gradés de l'époque qui ont dû participer au CNDD se retrouvent interpellés dans ce procès. Peut-être que l'un dans l'autre, ils ont fait en sorte que ce procès ne se tienne pas pour qu'il ne soit pas démasqué. Le président Alpha Condé seul peut répondre ce qui l'a freiné de faire tenir ce procès. Tout ce que je salue, c'est la présente tenue de ce procès-là.
Et quel est votre regard sur ce qui se passe en ce moment avec la transition? Quel jugement portez-vous sur elle?
Moi-même, je suis présidente de parti politique. Je suis le leader du parti Front pour l'Alliance nationale. Nous attendons que le dialogue ait lieu, parce que le dialogue est important entre les Guinéens. Je salue la désignation de trois dames de Guinée pour être les facilitatrices du dialogue. Moi, je pense que cette transition qui se passe a des acquis, bien que aussi il y a des manquements. Quand je parle des acquis, la tenue de ce procès en est un, puisque 13 ans d'attente pour les victimes, c'est important. La mise en place de la CRIEF pour vraiment recouvrer les biens détournés de l'État, c'est aussi une très bonne chose. La justice qui doit être établie à ce niveau est indispensable.
Adia Makale Camara, ancienne ministre des Affaires étrangères de Guinée. En Afrique centrale, l'interdiction d'exportation de bois sous forme de grumes, qui devait entrer en vigueur en janvier 2023, a été reportée à une date ultérieure. La décision a été rendue publique lors du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale le 28 octobre à Yaoundé. Pour justifier ce report, le Conseil des ministres a évoqué le coût économique que pourrait générer son entrée en vigueur, mais les défenseurs de l'environnement et les membres de la société civile protestent. Mohamed Houmfa a joint Raphaël Edou, ancien ministre des Forêts du Bénin et chef du programme Afrique de l'ONG EIA, Environmental Investigation Agency.
Nous avons été surpris, choqués, parce que les gouvernements de la CEMAC avaient mûri, analysé, avaient étudié les problèmes de la gestion forestière et avaient décidé d'interdire l'exportation du bois de grume en 2021 et cela devait prendre effet le 1er janvier 2022. Cela a été reporté à janvier 2023 et nous tous, nous étions en train d'espérer et de travailler pour la mise en œuvre de cette décision salutaire. Et ce qui nous a aussi surpris, c'est que la décision n'a plus indiqué quand elle va être mise en œuvre.
L'entrée en vigueur de cette décision devait entraîner un énorme manque à gagner fiscal et budgétaire pour les États de la région. C'est ce qui justifie, d'après le Conseil des ministres, ce report. Qu'en dites-vous?
La raison de perte de recettes fiscales, ils l'ont indiqué uniquement pour le Cameroun. Ça, là, nous a beaucoup surpris également. Parce que nous savons qu'au niveau du Cameroun, il y a d'abord un problème de gouvernance forestière. Il y a beaucoup d'entreprises vietnamiennes et d'autres qui sont en train d'exercer cette activité de manière illégale. L'ambassadeur de l'Union européenne, l'année passée, avait indiqué que le commerce illégal du bois au Cameroun représentait plus de 65% de tout le commerce du pays. Donc, dire maintenant que c'est à cause des pertes fiscales de Cameroun qu'il fallait reporter la décision, ça nous a vraiment paru bizarre.
En dehors des recettes budgétaires, cette activité profite à de nombreux acteurs. Il y a des emplois pour les jeunes, il y a de l'argent pour les transporteurs, il y a toute une économie qui se crée autour de l'activité. Quelle est l'alternative pour tous ces gens?
Cette décision est venue comme pour stopper un espoir, pour stopper un processus qui allait générer une chaîne d'activité. Parce que si les entreprises doivent transformer le bois localement dans le pays avant de l'exporter, cela ralentit le processus de coupe du bois à l'intérieur du pays. Cela également permet à l'État de faire même les contrôles au niveau des usines de transformation pour être sûr que les bois qui sont coupés dans les forêts ont été conformément à la loi du pays. Et n'oubliez pas tout l'investissement que les entreprises doivent pouvoir faire pour mettre en place toutes ces usines. C'est toute une chaîne d'activité économique.
Quel est en définitive l'intérêt pour les autorités de la région d'interdire l'exportation du bois sous forme de grumes?
Cela a un avantage économique, beaucoup d'investissements, transformations locales, même les rebuts issus des transformations vont créer aussi d'autres filières d'activité économique. Sur le volet environnemental, nous devons travailler pour ralentir le taux de déforestation dans la région. Avec les questions de réchauffement climatique, la région joue un rôle important, non seulement pour l'Afrique centrale, mais pour toute la planète.
Raphaël Edou, ancien ministre des Forêts du Bénin et chef du programme de l'ONG Environmental Investigation Agency.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Cameroun, des activistes affirment que le nombre de candidats à la loterie des visas d'immigrants aux États-Unis, également connu sous le nom de loterie des cartes vertes, a augmenté de 60%. Des milliers de personnes font la queue dans les cybercafés pour s'inscrire à ce programme. Selon elles, il y a besoin de fuir une économie pauvre et le conflit. Mais les activistes mettent en garde les candidats contre les arnaques. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, le récit est de Michel Joseph.
Plusieurs dizaines de personnes, en majorité des étudiants, tapent sur des claviers dans un cybercafé de Ngoa Ekele, un quartier de Yaoundé. Selon les propriétaires, la plupart des demandeurs font la queue pendant de longues heures pour s'inscrire à la loterie dans l'espoir d'obtenir un visa d'immigrant aux États-Unis cette année. Gertrude Tanaka, une enseignante de 29 ans, fait partie des candidats à la loterie des visas. Elle dit être à la recherche de meilleures opportunités économiques.
I just want to get out. That is why I'm playing the American lottery.
Je veux juste m'en sortir. C'est pourquoi je joue à la loterie américaine. Ma famille a beaucoup souffert et c'est le moment pour moi de m'occuper d'elle. Au Cameroun, je ne peux pas y arriver. Je travaille tous les jours de 6h du matin à 8h du soir et la rémunération est décourageante. Mais en Amérique, ce sera très facile. C'est une opportunité de sortir et de changer ma vie.
Tanaka dit que sa mère s'est également inscrite à la loterie pour augmenter leurs chances de réussite. La Digital Rights Coalition, une alliance de groupes de la société civile qui défendent les droits et la sécurité en ligne, affirme que les quelques 200 cybercafés du Cameroun ont vu une augmentation de 60% des personnes qui se sont inscrites à la loterie des visas cette année. Ils affirment que cette augmentation fait suite à une forte baisse en 2021 due au nombre élevé de décès aux États-Unis en raison du Covid-19. Le département d'État rapporte que les entrées dans le programme de loterie des visas américains en provenance du Cameroun ont chuté à 151 000 l'année dernière, environ la moitié du nombre de l'année précédente. Selon la coalition, de nombreuses personnes espèrent maintenant échapper aux difficultés économiques causées par une inflation élevée et un conflit séparatiste dans l'ouest du Cameroun qui a fait au moins 3 500 morts. Akaba James, coordinateur de la coalition, indique que son organisation met en garde les gens contre les escrocs qui demandent de l'argent pour des conseils peu utiles sur la loterie.
Il y a des milliers de faux sites, de fausses personnes sur YouTube qui donnent des conseils sur la loterie TV alors qu'elles ne comprennent pas grand-chose à ce processus. Veillez à ce que, où que vous jouiez à la loterie, vous récupériez votre reçu et le conserviez très bien afin que, lorsque les résultats seront connus et que vous aurez gagné, vous puissiez remplir votre formulaire de demande de visa, le DS, puis recevoir votre deuxième lettre de notification, passer un entretien, payer les frais de la carte verte et vous rendre aux États-Unis.
La police affirme que certains escrocs ont été arrêtés mais ne donne aucun détail. Jeffrey Presnell est vice-consul à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. S'exprimant récemment sur la chaîne de télévision locale STV, il a déclaré que les personnes qui s'inscrivent à la loterie de la carte verte doivent avoir au moins une formation de l'école secondaire. Il a également conseillé aux candidats de suivre strictement les règles énoncées dans le document.
Une autre erreur courante que nous voyons est que les candidats n'incluent pas tous les membres de leur famille. C'est très triste, car nous voyons parfois des candidats qui ont gagné à la loterie et qui sont disqualifiés parce qu'ils n'ont pas indiqué tous les membres de leur famille.
Le vice-consul à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé recommande aux demandeurs d'inscrire uniquement les noms des conjoints légaux ou des enfants qui vivent avec eux.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seludia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.